Fréquence Europe, l'émission européenne des radios Judaïca, réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver au Parlement européen pour la première émission Fréquence Europe de l'année. Une nouvelle année qui débute aussi avec une nouvelle présidence du Conseil de l'Union européenne, l'institution européenne qui représente les États membres dans le processus décisionnel européen. Et c'est donc la Croatie, dernier pays à avoir rejoint l'Union européenne, qui prend cette présidence pour la toute première fois pour les 6 prochains mois. Cette présidence se déroule au cours d'une période chargée, avec notamment le Brexit qui devrait être effectif pour le 31 janvier, mais aussi avec des discussions sur l'élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans occidentaux ou encore l'adoption du futur cadre financier pluriannuel qui fixera donc le budget de l'Union européenne pour les 6 prochaines années. D'où le slogan choisi par la Croatie pour cette présidence, une Europe forte dans un monde de défis. Et cette présidence ne sera pas de tout repos, également pour des raisons internes à la Croatie, puisque le gouvernement en place se trouve quelque peu en difficulté suite à l'élection présidentielle du 5 janvier. En effet, l'ancien Premier ministre Zoran Milanovic, de centre-gauche, a déjoué les pronostics en remportant l'élection face à la présidente sortante, proche du parti au pouvoir. L'investiture de Zoran Milanovic est prévue au mois de février. Elle risque donc d'inaugurer une cohabitation tendue avec le gouvernement en pleine présidence de l'Union européenne. À l'occasion de cette session à Strasbourg et de cette présidence croate, Andrei Plenković était donc au Parlement européen pour présenter ce programme à Strasbourg pendant cette session. À l'occasion donc nous de cette session, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Madame Jelania Zovko, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc députée croate ici au Parlement européen. Je vous présente, afin que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux, d'écouter ce petit et court portrait.
Madame Jelania Zovko, bonjour. Vous êtes députée européenne croate depuis 2016. Vous êtes membre du Parti de l'Union démocratique croate, affilié au Parti populaire européen, le groupe dans lequel siège également le Parti Les Républicains pour les Français ou la CDU allemande. Vous êtes née à Mostar, vous avez la double nationalité de Bosnie-Herzégovine et de Croatie. Et après avoir étudié la langue et la littérature française, vous avez entamé une carrière de diplomate, d'abord au sein de la présidence de Bosnie-Herzégovine, puis en tant qu'ambassadrice de Bosnie-Herzégovine en France, en Espagne, puis en Italie, jusqu'en octobre 2016. C'est après la démission d'Andrei Plenković, ancien député européen, aujourd'hui Premier ministre de Croatie, que vous entrez au Parlement européen comme députée européenne. Vous avez été réélue aux dernières élections du mois de mai 2019 et vous avez choisi de travailler sur des sujets de vos compétences, en siégeant notamment au sein de la Commission parlementaire des affaires étrangères, dont vous êtes coordinatrice pour votre groupe, le PPE, et aussi au sein de la délégation pour les relations avec la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo.
Voilà le petit et court portrait. On n'a pas fait d'erreur.
Non, pas grandes erreurs. Je suis vice-coordinateur parce que c'est finalement Michael Galler qui est coordinateur. Moi, je suis vice-coordinateur au sein de mon groupe. C'était une grande confiance que le groupe PPE m'avait donnée pour être coordinateur, vice-coordinateur.
Oui, c'est un rôle stratégique assez important puisque oui. C'est vous qui, sur tous les sujets, êtes amené à coordonner la position de votre groupe.
Oui, tout à fait.
Là, vice-coordonnée puisque vous allez travailler avec votre collègue.
Tout à fait.
Il y a un autre aspect de votre parcours qui est intéressant pour nous, je dirais, qui ne sommes pas de votre région et de Croatie ou de Bosnie-Herzégovine. C'est cette double culture. Vous avez donc travaillé en tant que diplomate pour la Bosnie-Herzégovine, mais aujourd'hui, vous êtes députée européenne croate. Pouvez-vous nous expliquer un peu votre parcours et cette double culture?
Oui, la France doit connaître toute l'histoire de Dayton-Paris, les accords de Dayton-Paris, dont le protagoniste était l'ancien président M. Chirac. Et vous êtes conscient qu'il y a 3 communautés qui vivent en Bosnie-Herzégovine, dont une communauté, c'est la communauté croate. Nous avons 500 000 Croates avec la double nationalité en Bosnie-Herzégovine qui sont devenus les membres de l'Union européenne avec la Croatie qui est entrée en l'Union européenne. C'est la même chose comme l'Irlande du Nord maintenant qui a des Irlandais qui sortent et qui vont devenir
Irlandais tout court, oui.
Non, mais de Grande-Bretagne devient, oui, Grande-Bretagne devient le troisième monde pour l'Union européenne et ces citoyens restent comme les citoyens aussi européens. Et comme ça, les Croates qui vivent en Bosnie-Herzégovine sont les membres de l'Union européenne, mais le pays n'est pas.
Oui, le pays, la Bosnie-Herzégovine, pour rester, a quand même cette particularité d'avoir aussi une présidence tournante. On parle de la présidence tournante ici pour l'Union européenne, mais la Bosnie-Herzégovine a une présidence tournante, mais elle qui tourne aussi sur ces différentes nationalités du pays.
Oui, parce qu'il y a les Bosniaques, qui sont les musulmans bosniaques, les Serbes et les Croates, les trois membres de la présidence qui sont faits pendant les accords de Dayton-Paris. Ils sont mis dans la position de décider sur l'armée, sur la position et de donner aussi une confiance aux communautés qui ont passé une guerre incroyable et où les gens sont entretués. Et c'était la présidence qui joue le rôle majeur sur la politique extérieure de Bosnie-Herzégovine aussi et qui nomme les ambassadeurs. Moi, j'étais nommée par le président croate qui était, comme j'ai travaillé aussi au sein de son cabinet et de l'ancien président croate. Et comme ça, je suis devenue un ambassadeur, mais je représentais toutes les trois communautés et le pays aussi.
Alors, comme je disais, la Croatie est membre depuis 6 ans, plus de 6 ans de l'Union européenne. C'est la première fois qu'elle préside donc le Conseil de l'Union jusqu'au mois de juillet. Que représente cette présidence pour la Croatie aujourd'hui, puisque c'est la première fois? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est quelque chose d'important?
Oui, c'est la chose la plus importante. Il faut souligner qu'au mois de mai, on va fêter le 20 ans du sommet de Zagreb. 20 ans quand la Croatie, comme tous les pays du Balkan occidental, de l'Europe du Sud-Est, ont obtenu cette chance de devenir membre de l'Union européenne. Et c'était le seul pays qui avait fait un grand succès, c'était la Croatie. Et maintenant, le dernier pays qui est devenu le membre de l'Union européenne est un pays protagoniste et un pays qui est à la tête de l'Union européenne. C'était la vision de l'ancien président Tudjman aussi, parce qu'il a dans les documents stratégiques, dans les années 90, c'était adhérer, la Croatie doit adhérer à la communauté européenne. Et je pense que c'est après 30 ans après, on a fait un grand projet d'être membre d'une union qui représente la paix. La réconciliation est un projet qui a le plus grand succès au monde. Et c'est ça que l'Union européenne représente pour tous les Croates.
Mais on reviendra après sur la question. Vous êtes, de ces Balkans occidentaux, le seul pays qui a finalement adhéré, puisqu'il y en a encore d'autres. Donc on reviendra sur cette question tout à l'heure. Dès le début de la présidence croate, le Premier ministre, donc Andrej Plenković, a clairement indiqué que la Croatie souhaitait encore continuer à avancer, donc ils sont membres, mais souhaitait rapidement intégrer l'espace Schengen, voire la zone euro. Quels sont les défis auxquels seront confrontés la Croatie pour pouvoir atteindre cet objectif?
Oui, tout à fait. La Croatie a fait tout le nécessaire conditions que la Commission a posées devant la Croatie pour être le plein membre de Schengen. Et comme nous faisons la présidence de l'Union européenne dans ce moment, on ne peut pas faire le lobbying pour nous-mêmes et nous laissons dans la prochaine présidence de faire la décision parce qu'on a obtenu l'avis positif de la Commission.
Mais vous avez l'avis positif comme la Bulgarie, comme la Roumanie, oui, qui attendent depuis quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de concurrence entre la Croatie qui voudrait les dépasser, sachant que maintenant la Roumanie a eu, c'est positif, la Bulgarie, mais pour l'instant, les États membres, c'est les États membres qui bloquent pour l'adhésion de ces deux pays-là, puisque la Commission a aussi donné des avis positifs.
Bien sûr, mais nous souhaitons aussi que la Bulgarie et la Roumanie adhèrent, parce que Schengen, ça c'est la sécurité, ça c'est la circulation libre des gens et aussi de marchandises, et ça facilite beaucoup la vie des gens, et je pense que nous sommes très bons élèves. Nous voudrons être nommés comme les meilleurs élèves, mais aussi nous encourageons nos compagnies comme Bulgarie et Roumanie, et nous souhaitons qu'eux aussi deviennent pleins membres de Schengen.
Mais une des difficultés, c'est que les pays entrant dans Schengen, ce sera lui qui sera chargé de contrôler ses propres frontières extérieures. Donc là, vous, les frontières extérieures, pour la Croatie, c'est notamment la Bosnie-Herzégovine, oui, dont on parlait au départ, qui est déjà une frontière a priori très gardée, avec beaucoup de policiers qui sont tout le long de cette frontière-là. Est-ce que là, par exemple, si on prend vous qui disiez qu'il y avait donc une communauté croate en Bosnie-Herzégovine, mm-hmm, et les Croates de Croatie, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir un problème des Croates qui sont installés en Bosnie-Herzégovine, qui eux ne pourront pas bouger, qui seront bloqués à la frontière, et les Croates qui par contre pourront beaucoup plus facilement circuler?
Tout à fait, mais les Croates qui vivent en Bosnie-Herzégovine, ils ont tous les Croates, ils ont obtenu son passeport et les documents de l'Union européenne, et tout ce qu'ils sont restés, ils bougent sans aucun problème, comme les citoyens de Bosnie-Herzégovine qui n'ont aucun problème avec
la Croatie,
avec la loi, mm-hmm, qui n'ont aucun problème. Et dans ce moment, je pense que Croatie contrôle plus que tous les autres membres qui sont dans l'Union, dans Schengen, contrôle parfaitement ses frontières. Et nous sommes dans un bon contrôle parce que nous connaissons et nous savons très bien qu'est-ce que ça pose pour la sécurité de citoyennes dans l'Union européenne. Et c'est pourquoi c'est très important que la Croatie... mais nous voulons... C'est pas que nous voudrions être les gardiens des frontières. C'est pourquoi nous parlons toujours d'élargissement, parce que nous ne voulons pas avoir des... comme on dit, failed state dans, mm-hmm, notre frontière, qui peut poser des problèmes pour la sécurité de Croatie et de l'Union européenne.
Et vous avez été comme sur la route du passage lorsqu'il y a eu les réfugiés, la crise des réfugiés avec le chemin des Balkans. Et quoi qu'il arrive, il y aura la frontière sera importante. Donc vous allez être amené dans le cadre de votre programme, vous en pensez aussi, c'est réformer Schengen. Un des éléments, c'est réformer Schengen, c'est réformer Dublin. Est-ce que quelles sont les propositions que la présidence croate voudrait faire pour finalement, aujourd'hui, réformer et faire en sorte qu'on n'ait pas à nouveau ce qui s'est passé en 2015.
Regardez, pour réformer Dublin, ça c'est une question, je pense, qui peut prendre
des années.
Je me souviens des années 92, quand j'étais à Londres, j'ai travaillé chez les avocats qui a fait tous ces cas des réfugiés, des migrations. Pendant la guerre, et je sais que dans ce moment, il y avait des grands problèmes avec la guerre en ancienne Yougoslavie, avec tous les réfugiés, toute la migration qui s'est posée dans les années 90. Pour moi, le problème qu'on doit résoudre au bout d'où vient, dans la source de la migration, tous les conflits et toute la menace qu'on reçoit, des autorités qui n'ont pas la responsabilité de s'occuper des réfugiés et de...
Mais c'est tout le problème de la répartition.
Intégrer,
c'est
oui.
Tout le problème de la répartition et le problème de Dublin. Ce qu'ont refusé les Hongrois ou refusé d'autres, c'est que finalement, le passage, si maintenant la crise, une crise migratoire revient et le passage est là, ce sera toujours sur le début du lieu de passage qu'il y aura les problèmes. Donc à un moment, il va falloir peut-être résoudre le fait que ce soit le pays d'accueil qui soit chargé de faire l'étude de la demande d'asile.
Mais on ne peut pas laisser tous les pays dans les frontières, comme la Grèce, l'Italie.
Oui, c'est ça.
On ne peut pas les laisser seuls de s'occuper de problèmes. Et c'est pourquoi je dis toujours qu'on doit approcher ces problèmes dans une autre manière, dans une manière plus holistique. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les réfugiés qu'on finance pendant des années avec pourquoi il n'y avait pas l'intégration dans la communauté. Moi, j'étais, quand je travaillais dans la dernière législature, dans le comité de développement, j'ai visité tous les réfugiés au Liban, de tous les Syriens, qu'il y a des millions là-bas, les réfugiés. Je suis très occupée des problèmes des réfugiés en Turquie, des réfugiés quand moi, j'ai fait la visite au Pakistan, j'ai vu la répatriation de tous ces réfugiés en Afghanistan. Je trouve et aussi j'ai visité en Niger toutes les routes où on, notamment la France et tous les pays, les alliés, combattent la route illégale de migration. Je trouve que c'est un problème très complexe, qu'on ne peut pas faire la débat seulement qui reçoit et qui ne reçoit pas finalement les migrants. Je pense que la migration illégale, il faut le combattre. Notamment, c'est la source de la richesse pour les criminels, pour les bandes organisées. Et aussi, initier toute cette polémique seulement sur les réfugiés, on ne parvient pas
à
régler le problème. Le problème est là-bas où j'ai vu toute cette route de la migration, tous ces pauvres gens qui sont vraiment exploités du problème. Ils sont comme marchandises aujourd'hui. Ils sont marchandises entre tous les gens, mais aussi dans la politique. Comment résoudre ce problème que les gens ne sont pas marchandises?
Je vous propose de faire une petite pause musicale pour quelques minutes en écoutant un groupe qui est allemand mais qui fait de la musique un petit peu bien mélangée. On écoute ça tout de suite.
Плевать, что завтра не суббота, а среда.
Komm, ich zeig dir Berlin. Du verbringst am besten Tag in Berlin. Die strömende Farbe mit dem Rad durch Berlin. Seit Jahren verdien ich keine müde Mark in Berlin. Doch ich mag mehr Berlin, auch wenn ich gar nichts verdien. Jeden Tag schreibe ich Part für Part in Berlin. Auf Partys bring ich Beute um den Schlaf in Berlin. Mit Rotfront bin ich am Start in Berlin. Ich bin hier geboren und ich will mein Grab in Berlin.
Voilà, alors on se retrouve après cette musique très gaie et très entraînante avec de l'allemand, du hongrois, si j'ai bien écouté, il y a même du hongrois dans cette chanson. Et on revient avec vous, Madame Jelena Zovko, donc vous êtes députée croate, je le rappelle à nos auditeurs. On a parlé des migrations, j'aimerais maintenant qu'on continue sur la programmation croate de la présidence de l'Union, on va dire ça comme ça, pour les 6 prochains mois, mais avec un sujet qui est quand même très compliqué, puisque vous allez faire face au premier retrait d'un État membre de l'Union européenne. Là, c'est donc le Royaume-Uni qui va se retirer le 31 janvier, donc l'Union européenne ne sera plus qu'à 27. Vous qui avez vécu en Angleterre, comprenez-vous ce choix du Royaume-Uni? Finalement, aujourd'hui, vous y étiez il y a quand même déjà un certain nombre d'années, mais maintenant, quand vous regardez ça, vous dites, mais c'est quand même fou, ou est-ce que finalement ça ne vous surprend pas?
Honnêtement, ça ne me surprend pas.
Ah. Vous n'avez pas été surpris du Brexit finalement, de ce référendum, de ce résultat?
Non, parce que ça, c'était la spécificité de Grande-Bretagne. C'était un monde à part, toujours. Et la communication de part de Bruxelles n'était pas juste, n'était pas faite dans une bonne manière. Et comme la Grande-Bretagne a invité les relations publiques, ils ont fait une grande campagne dans sa manière, dans le moment qu'ils ont utilisé ce problème de migration qu'on avait eu, notamment
à ce moment-là, oui.
qu'on vient de parler. Ils avaient une grande peur et cette peur, la peur quand on utilise ça pour la campagne par les populistes, ça c'était le seul choix qu'on attendait.
Le Royaume-Uni se retire, il nous reste 11 mois selon l'accord qui va être établi pour établir des nouvelles relations avec l'Union européenne. Donc ça va être ce qu'on appelle des accords de partenariat, des accords d'association qu'il va falloir négocier. Ce délai de 11 mois, vous le trouvez juste? On arrivera à trouver une nouvelle relation? Comment vous imaginez cette nouvelle relation avec le Royaume-Uni?
Ça va être une relation amicale, mais aussi faite sur les accords justes et sur les accords qui doivent aussi convenir à l'Union européenne. Et ça va être très difficile à parvenir dans 11 mois. Sur les accords, je ne suis pas optimiste du tout qu'on va avoir ça. Parce que qu'est-ce qu'on a manqué dans cette négociation sur Brexit, dans ce choix qu'ils ont fait, ce mauvais choix, à mon avis, qui est un mauvais choix, c'était le fait que la Grande-Bretagne doit négocier tous les accords de
libre-échange.
Ça va être très, très difficile. Et aussi tous les intérêts qu'on a pour la pêche et tous ces problèmes et la libre circulation des gens.
Et des produits financiers, tout ça.
Oui, tout ça va se poser comme un grand problème. Et je pense, je trouve qu'on attend l'extension parce que 11 mois, c'est
Boris tout. Johnson veut, lui, il dit tout sera fini le 31 décembre 2020.
Oui, ça c'est son manière de le dire, pour montrer qu'il a le projet, qu'il est ferme, qu'il est un grand homme, mais tout change.
Continuons sur d'autres thématiques, mais une thématique que vous connaissez bien, c'est celle de, je vais appeler ça l'embriglio de l'élargissement, puisque depuis quelque temps, il y a une opposition qui s'est créée entre les États membres, certains dont la France qui souhaite ralentir, réviser le processus d'adhésion et qui a pour cette raison refusé l'ouverture des négociations avec l'Albanie et la République de Macédoine du Nord, et d'autres pays comme vous, qui êtes c'est des pays voisins et qui souhaitaient qu'il y ait une vraie ouverture qui soit faite avec ces pays qui attendent depuis quelques années leur entrée dans l'Union européenne. Que pensez-vous déjà? Est-ce que d'ici le mois de mai, pour le sommet de Zagreb, la France et d'autres seront prêts à évoluer sur cette question? Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Oui, je crois que c'est possible. Je crois dans mon premier ministre, André Plenković, qui était dans le même temps à Paris comme diplomate, qui adore la politique et culture française, qui est très francophone et qui a de bonnes relations avec le président français, le président Macron, et avec tous les diplomates. Il a la juste manière et il connaît très bien l'histoire institutionnelle de ce processus.
Il a été député européen pendant quelques années aussi.
Hein. Absolument, oui, aussi. Et comme Michel Barnier, qui est grand négociateur, grand député aussi, qui était le ministre des Affaires étrangères au moment où la France jouait un grand rôle dans les Balkans et pour l'élargissement. Il faut mettre dans le contexte qu'est-ce que l'élargissement donne à France. Et je pense que ça, ce n'était pas expliqué. C'était toutes les choses négatives qui se sont présentées dans l'espace public en France. Personne dans la politique ne pouvait pas mentionner ce mot parce que ça vraiment...
Les élargissements ont été mal compris par beaucoup, puisqu'on parlait, nous, à l'époque, je me souviens du débat il y a quelques années, c'était approfondissement ou élargissement. On a élargi et maintenant les choses ne marchent pas bien. Alors on veut revenir en arrière en disant maintenant il faut approfondir avant d'élargir. Voilà la problématique qui se pose.
Oui, mais approfondir, ça c'est comme réformer Dublin. Quand on va parvenir à ça, ça c'est une autre question. Mais la question de l'élargissement, c'est la question de la paix et stabilité pour l'Union européenne. Il faut se souvenir que la Croatie était reconnue par l'Allemagne dans les années 90 à cause de ce grand problème migratoire. Quand on avait la guerre dans l'ancienne Yougoslavie, il y avait 1 million de réfugiés. Et c'est pourquoi, si le Balkan explose, qui va protéger l'Union européenne, la stabilité des gens? Je pense laisser cet espace dans les acteurs qui ne sont pas bienfaisants, qui n'ont pas les bonnes intentions. Et aussi, c'est un espace où tous les jeunes gens, ils ont quitté. La majorité d'eux avaient cette possibilité de partir, de faire un échange, de rester dans l'Europe. Et pour les raisons démographiques, l'Allemagne a reçu la grande majorité d'eux. Et c'est un espace sans gens. Et élargir dans cet espace, ça veut dire fermer cet espace qu'est-ce qu'on va faire des Balkans si on le laisse comme un désert? Dans les pays tiers où vous pouvez avoir un grand danger. Vous voyez qu'est-ce que s'est passé avec l'Afrique du Nord quand tous ces pays sont changés. On a un grand flux de réfugiés. Et c'est pourquoi je pense que c'est une vision stratégique, élargissement. On doit avoir les institutions fortes, on doit avoir tous ces pays avec les jeunes gens, avec les gens capables de nous protéger.
Vous pensez que le risque, c'est un risque du populisme? Si maintenant on les fait trop attendre, il y aura des risques de nationalisme de nouveau dans les Balkans. C'est un peu ça l'idée, que ça soit une zone de nouveau d'instabilité.
Je pense pas d'instabilité entre eux, mais je pense que si vous laissez tous les autres acteurs qui sont pas européens de prendre influence là-bas et de
se poser... Vous pensez plutôt à la Russie, ce genre de choses-là, la Chine,
la Saoudi-Arabie, la Turquie, ils sont tous présents et ils attendent.
D'accord. Alors pour terminer sur une note, positive, on va se donner encore 2 minutes. J'ai une petite chronique qui s'appelle 4GI, comme dans l'hémicycle, où je vous pose des questions courtes et vous répondez à des réponses courtes aussi.
J'ai passé la parole dans le cadre de Catch the Eye.
Catch the Eye.
Catch the Eye.
We now move to Catch the Eye.
Catch the Eye.
Alors ça ressemble, vous avez déjà répondu à cette question, mais je vous la repose très vite. Quelle est pour vous la plus grande réussite de l'Union européenne?
C'est la Croatie qui est entrée dans l'Union européenne.
Et alors son plus grand échec pour être équilibré, est-ce qu'il y a un échec pour vous dans la politique de l'Union européenne? Il y a quelque chose qu'elle doit encore faire ou quelque chose que vous pensez qui est un échec?
C'est le manque de volonté et vision d'élargir.
Quelle est votre langue préférée hormis le croate?
Français.
Le français. Et si vous aviez un conseil culturel, une lecture, une musique, une expo, voire un lieu que vous aimez beaucoup, que vous voudriez faire découvrir, qu'est-ce que vous proposeriez?
À Split, où je vis maintenant. C'était un bijou de l'Empire romain dans un temps. Et on est très fiers de Split. C'est la plus beau ville dans la côte d'Almate.
Alors merci Madame Zovko d'avoir fait l'effort d'être avec nous et d'avoir parlé français pendant 25 minutes pour cette émission. Je vous remercie aussi de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour une nouvelle émission Fréquence Europe. À bientôt.